L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Les médias francophones publics vous accompagnent pour l'actualité de la semaine. RFI, Radio-Canada, la radio-télévision suisse, ici, anciennement France Bleu, et enfin la RTBF. Et on va précisément se rendre à Bruxelles pour commencer. Jacques Kremers, 30 000 personnes ont manifesté en début de semaine pour revendiquer le droit à une pension décente. Les syndicats entendent faire pression sur les partis qui négocient la formation d'un gouvernement fédéral.
Oui, précisément sur les 5 partis qui tentent de former une coalition, les syndicats craignent que le futur gouvernement remette en cause les possibilités de départ anticipé dont bénéficient certains métiers.
Le débat autour de l'âge de la retraite est aussi à nouveau d'actualité en France. Le Premier ministre l'a évoqué dans sa déclaration de politique générale cette semaine. Nous verrons que cette possible réforme plonge les futurs retraités dans l'incertitude, comme cet employé né en 1963.
J'ai fait des études d'économie. Je suis quand même perdue dans les calculs. Je vais suivre ce qui se passe.
Elle a été la première femme à la tête de l'armée suisse. La conseillère fédérale en charge de la défense et des sports a annoncé sa démission ce mercredi, Pierre Anchoffat.
Elle peut s'enorgueillir d'avoir convaincu les Suisses d'investir dans des avions de combat, mais avec son départ surprise, c'est la proportion de femmes au gouvernement qui va sans doute se péjorer.
Il sera aussi question de cette rencontre importante mercredi dernier au Canada, rencontre entre le Premier ministre Justin Trudeau et ses homologues des provinces et des territoires, Nadi Mobarak.
Il a été question de la stratégie canadienne pour répliquer à d'éventuels tarifs douaniers américains.
Enfin, nous reviendrons avec RFI sur le récent enlèvement d'une ressortissante autrichienne. C'était le week-end dernier à Agadez, dans le nord du Niger, Nicolas Sûr.
Oui, Eva Gretzmarer, 73 ans, est une figure bien connue dans cette ville où elle réside depuis 3 décennies.
30 000 personnes donc dans les rues de Bruxelles lundi dernier, selon la police. Les manifestants entendent faire pression sur les partis qui négocient la formation du gouvernement fédéral, du futur gouvernement. À propos des pensions, certains projets de réforme inquiètent déjà, Jacques.
Il s'agissait de la première manifestation nationale de l'année, une mobilisation dirigée contre les projets de réforme des retraites. En Belgique, le départ à la pension vient tout juste de passer de 65 à 66 ans. Mais les syndicats craignent que le futur gouvernement fédéral, dont 5 partis négocient actuellement la formation, remette en cause certaines dispositions, dont la possibilité pour certains métiers de bénéficier d'un départ anticipé. Inacceptable, ont dénoncé les manifestants.
On a de plus en plus de pompiers dont les carrières sont prolongées, qui se trouvent en incapacité opérationnelle, et on essaye tant que mal de leur conserver des tâches, mais avec une charge physique qui reste forcément importante.
En tant que femme, on est un peu pénalisée, en fait, parce que les femmes prennent des cartons, des machins pour élever leurs enfants. Et en fait, elles se retrouvent avec des petites pensions. Elles ont élevé leurs gosses pour qu'ils travaillent, mais on n'en tient pas compte, on est toujours pénalisée.
Pompiers, policiers, cheminots, de nombreuses catégories professionnelles bénéficient de ces régimes dits préférentiels, avec des départs parfois à l'âge de 55 ans, pour un conducteur de train avec 30 ans de carrière, par exemple. Mais rien n'est encore officiel, décidé. D'autres aspects du système de pension pourraient aussi faire l'objet de réformes. La manifestation avait donc un caractère préventif, un avertissement adressé aux formateurs Bart De Wever et aux présidents des partis qui, depuis le mois de juin, négocie un accord de majorité fédérale.
La réforme des retraites, on en parle aussi, on en reparle en France. La question de l'âge légal de départ, passé de 62 à 64 ans, va être remise en chantier. C'est ce qu'annonce le Premier ministre. C'était cette semaine dans sa déclaration de politique générale. Pas de suspension ni d'abrogation, comme réclamé par la gauche et refusé catégoriquement par la droite. François Bayrou s'en remet aux partenaires sociaux. Il leur donne 3 mois pour s'accorder sur un nouveau texte et peut-être sur un gel du recul de l'âge légal réclamé par les organisations syndicales. Une potentielle réforme de la réforme qui plonge les futurs retraités dans l'incertitude, comme a pu le constater Arthur Fradin pour Ici Maine.
Stéphane, né en 1964, qui travaille dans la production de semences en Anjou, sera extrêmement attentif aux potentielles retouches qui pourraient être apportées à la réforme des retraites.
Je devais partir à la retraite le 1er avril prochain, là, en 2025. La réforme a repoussé de 6 mois, de 2 trimestres. Ça a pris effet tout de suite. Hein. Dès que la réforme était à peine votée, que nous, on savait déjà qu'on allait être allongé.
Sa crainte, si le report de l'âge légal prévu à l'automne 2025 est annulé, avec un maintien de l'âge légal de départ à 62 ans et demi, c'est d'être la génération sacrifiée, celle qui a subi la réforme, avant que les autres ne bénéficient d'un rétropédalage.
Demander la liquidation de la retraite, ça s'anticipe.
Pour Gabriel, employé dans l'immobilier, né en 1963, le climat d'incertitude autour de ces nouvelles discussions en rajoute une couche.
J'ai fait des études d'économie, je suis quand même perdue dans les calculs. Je vais suivre ce qui se passe.
Dalila, infirmière en région parisienne, ne serait-elle pas du tout contre un retour en arrière ?
Ah bah je serais contente, youpi. Mon mari et moi, tous les deux, donc on est fatigués. Là, à 60 ans, on se lève de bonne heure, on conduit toute la journée. C'est partir plus tôt et profiter un petit peu de notre temps qui nous reste.
Reportage d'Arthur Fradin pour Ici Maine, Ici étant le nouveau nom de France Bleu désormais.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Il va être question d'une démission en Suisse. La ministre de la Défense et des Sports quittera ses fonctions le 31 mars prochain, Pierre-Han, et la course à sa succession est déjà lancée.
Dans notre système collégial, pas de premier ministre qui forme son équipe, c'est le Parlement qui va élire un ou une nouvelle conseillère fédérale pour compléter cette équipe de 7 membres où les 4 principaux partis sont représentés. Le centre, le parti de Viola Amert, qui s'en ira donc fin mars, n'a pas de souci à se faire pour son siège qu'aucun parti n'envisage de contester.
En revanche, la question homme-femme est bien présente.
Oui, car le risque est réel de retomber à 2 femmes sur 7, un risque qui n'a pas échappé à Viola Amert quand elle justifie son départ par un besoin de 109.
C'est temps de donner la place à quelqu'un qui vient, je dirais, oui, frais ou fraîche. Je ne sais pas si ce serait une femme ou un homme.
Juste une allusion pour souligner l'importance de la parité, elle qui s'est battue durant son mandat pour améliorer la place des femmes dans l'armée et dans les instances sportives. Dans un contexte où les principaux favoris sont des hommes, la présidente des femmes du centre, Christina Backman-Roth, veut en tout cas obtenir une place pour les femmes sur la liste que son parti soumettra à l'Assemblée fédérale.
J'aimerais bien une femme sur le ticket pour le siège du Conseil fédéral. Maintenant, on a 3 femmes au Conseil de 7 sièges. Et je pense que ce n'est pas trop. 50% du peuple, c'est des femmes. Donc c'est important, je crois, qu'on représente quand même la Suisse.
Pas facile toutefois d'atteindre un gouvernement représentatif du pays quand il n'y a qu'une place vacante. Certains spéculent d'ailleurs sur une autre démission qui ouvrirait un peu le jeu. Mais il est assez probable que les femmes doivent à nouveau se contenter de 2 places sur la photo du Conseil fédéral, bien loin de l'année 2010 où elles étaient 4 sur 7 à rayonner au sommet du pouvoir.
Retour à présent sur une rencontre au Canada, à quelques encablures maintenant de l'investiture de Donald Trump, c'est lundi prochain. Justin Trudeau et ses homologues des 13 provinces et des territoires se sont rencontrés pour mettre la touche finale à l'éventuelle réplique canadienne. Réplique imaginée si le président américain allait de l'avant quant à ses menaces tarifaire, Nadie.
Voilà, réunis à Ottawa mercredi, ils ont discuté de différents scénarios afin de répondre de façon réciproque et proportionnelle aux éventuelles mesures tarifaires américaines qui menacent selon eux des centaines de milliers d'emplois. Ce que l'on sait, c'est que la réplique canadienne sera mise en œuvre de façon progressive, par étapes. Selon l'agence de presse Reuters, le Canada pourrait imposer des droits de douane valant jusqu'à 150 milliards de dollars ou 100 milliards d'euros sur des importations américaines, mais la liste exacte des produits n'a pas été dévoilée. Et puis le Québec est même prêt à limiter, si nécessaire, ses exportations d'électricité. Voici le premier ministre du Québec, François Legault.
On va tout faire d'ici la semaine prochaine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tarifs. Par contre, on ne se laissera pas faire. Actuellement, on n'exclut rien. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés, mais on n'exclut rien.
Voilà, François Legault, donc, à l'instant. Cela dit, brandir la menace de l'énergie, ça ne passe pas en Alberta, Nadie.
En effet, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, refuse carrément que le pétrole de sa province devienne un levier de négociation dans une éventuelle guerre tarifaire avec les Américains. Elle n'a donc pas signé le communiqué final. Pourtant, la rencontre devait être l'occasion de se serrer les coudes, de montrer que la partie canadienne est prête à faire des sacrifices, même si la riposte pourrait faire mal à plusieurs provinces. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, présent à la rencontre, portait d'ailleurs une casquette sur laquelle était écrit « Le Canada n'est pas à vendre ». Mais force est de constater que des divisions persistent sur la forme que doivent prendre les éventuelles mesures de représailles.
Alors encore une question, on a dit comment réagit le monde des affaires ?
Eh bien, le milieu des affaires se prépare aussi de son côté pour faire face à d'éventuels tarifs de Donald Trump. Le président de l'Association de l'aluminium du Canada, Jean Simard, voit d'un bon œil la stratégie d'Ottawa et des provinces.
Les positions exprimées par les provinces, en fait, convergent toutes vers le même point. Il faut avoir une approche qui est très coordonnée. Il ne faut pas révéler nos cartes tout de suite, tant et aussi longtemps que le président Trump n'aura pas mis sur la table ses tarifs.
Le plan de riposte économique du Canada et des provinces sera prêt dès le 20 janvier, soit dès que Donald Trump entrera officiellement en poste.
Nadie Mobarak pour Radio-Canada. Enfin, retour sur cet enlèvement au Niger cette semaine, l'enlèvement d'une septuagénaire autrichienne. Le ministère autrichien des Affaires étrangères a confirmé l'information. Eva Gretzmacher a été enlevée à Agadez, dans le nord du Niger, par des hommes armés non identifiés. Et l'émotion est vive dans cette ville où elle vivait depuis 30 ans, Nicolas.
Oui, à Agadez, tout le monde ou presque la connaît. Elle est comme notre sœur, témoigne un habitant. Depuis 28 ans qu'elle vivait dans la capitale de l'Aïr, elle était bien intégrée dans la vie locale. Décrite comme très active, Eva Gretzmacher est connue pour ses projets en faveur des femmes et de l'éducation. Samedi 11 janvier, dans la soirée, des hommes armés font irruption à son domicile et l'emmènent à bord d'un pick-up vers une destination inconnue. Depuis, des recherches sont en cours. Les forces de défense et de sécurité nigériennes sont mobilisées, appuyées par l'UNVP, l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme, créée dans la foulée du coup d'État de juillet 2023.
Et c'est la première fois qu'un ressortissant européen est enlevé à Agadez, Nicolas.
Oui, et le dernier kidnapping d'Occidentaux dans la région remonte à plus de 10 ans. Il s'agissait d'employés français, notamment du groupe nucléaire Areva, pris en otage à Arlitz par Acmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Aujourd'hui, pas de revendication. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda a démenti être en lien avec l'enlèvement d'Eva Gretzmacher. L'Autrichienne a-t-elle été victime d'un acte de banditisme ? Des braquages ont lieu dans la région. Ces ravisseurs cherchent-ils à vendre leur otage à un groupe armé terroriste, autant de questions sans réponse à l'heure actuelle.
Nicolas Sur et RFI pour refermer votre rendez-vous hebdomadaire avec les médias francophones publics. Merci d'avoir été là une nouvelle fois. La semaine prochaine, on se retrouve, si vous le souhaitez, avec Radio-Canada, avec la radio-télévision suisse, avec ICI, avec RFI et la RTBF. Excellente fin de semaine.